À l'émission Marcher en creusant, nous vous proposons une émission de la série ayant comme titre « Retrouver la source intérieure », animée par le père Bernard Rugeux, missionnaire d'Afrique, anthropologue, théologien et auteur.
Nous poursuivons aujourd'hui notre réflexion sur la rencontre entre les détresses qui peuvent nous habiter à certains moments et une réponse spirituelle, un chemin d'intériorité, une pratique de la méditation. Les détresses dont nous parlons, je vous le rappelle, il y a l'angoisse face à la mort, l'absurdité de la vie, le sentiment d'absurdité de la vie, de non-sens, avec tout ce que cela peut entraîner de troubles et d'inquiétudes, et puis ce sentiment de solitude, d'isolement, d'exclusion, de coupure avec les autres que l'on peut vivre à certains moments. Et sans doute que d'une façon ou d'une autre, vous avez eu, vous aussi, l'occasion d'être confronté à une de ces sentiments, à un de ces sentiments de détresse. Et je vous disais la fois dernière que tout cela n'est pas fatal. Nous sommes tous à un moment ou l'autre provoqués par les événements de la vie ou par l'expérience de nos propres limites à ces sentiments de désespoir, de détresse. Bon, l'expression détresse vient de Karl Graf Durkheim, mais peu importe. Ce qui est important, c'est qu'une certaine pratique de la vie spirituelle peut nous aider à découvrir qu'il y a une force qui peut l'emporter sur la mort, une lumière qui l'emporte sur le non-sens et un amour qui libère de l'isolement. Et c'est ce que nous allons continuer à approfondir maintenant. La force qui répond à l'angoisse nous parle d'une vie qui nous fait comprendre que la mort n'a pas le dernier mot. Et ce n'est pas pour rien que tant de nos contemporains sont sensibles à l'idée d'une vie après la mort, que ce soit sous forme de réincarnation ou bien dans la tradition chrétienne de la foi en la résurrection. Et puis, progressivement, parce que ce chemin d'unification par cette paix, par ce regard intérieur, nous permet de découvrir que le monde n'est pas un non-sens, eh bien, nous pouvons retrouver un certain ordre, une lumière, une place dans le monde. Cette lumière est présente parmi nous, et notre regard lui-même peut devenir lumière pour les autres lorsque nous les reconnaissons. Mais il arrive que notre regard soit surtout dirigé vers nos obscurités intérieures. Alors nous pouvons poser un regard sur l'autre qui nie ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de beau en lui et qui nous dérange parfois. Parce que c'est vrai que cette grande expérience des personnes avec un handicap, nous sommes tous un mélange de lumière et d'ombre. Et il dépend aussi en partie de nous que la lumière l'emporte sur le non-sens. Et puis donc, cette troisième dimension que nous découvrons sur un chemin de lâcher prise, c'est que nous sommes reliés au reste du monde, aux autres, à une réalité transcendante, que nous ne sommes pas simplement un être isolé, ballotté au gré des événements. Il y a en nous une capacité d'aimer, d'être aimé, qui est un potentiel qui n'est peut-être pas suffisamment exploité. Alors nous ne l'avons peut-être pas totalement découvert, mais par le chemin qui nous est proposé ici de redécouverte d'une vie intérieure et d'une source intérieure, nous pouvons nous ouvrir à cette relation, à ce dépassement des détresses. Alors, il est important de prendre conscience qu'effectivement, à certains moments de notre vie, nous sommes habités ou menacés par une de ces détresses. Il ne faut pas paniquer, cela fait partie de notre conditions humaines, parce que nous sommes des êtres finis, limités, et que d'ailleurs, comme je le disais tout au début, c'est parfois en allant jusqu'au bout d'un sentiment de détresse que l'on prend conscience qu'il faut maintenant arrêter de se disperser, arrêter de tourner en rond, arrêter de vivre de façon superficielle, et de retrouver le vrai sens de la vie. qui est un sens qui va beaucoup plus profond que ce qui nous est renvoyé par les médias ou par le commerce. Parfois aussi, l'expérience de la détresse est la découverte que nous ne sommes pas suffisamment unifiés et que nous avons à aller voir ce qui, en nous, pour le moment, nous empêche de nous accueillir tels que nous sommes et d'unifier nos profondeurs. Alors comment est-ce que la méditation peut apporter un éclairage et une réponse ? Face à l'angoisse de la mort, nous découvrons qu'il y a une vie qui est en nous et qui ne vient pas de nous. Il existe une source qui donne la vie, et cette vie avec un grand V, c'est un don du Créateur, duquel chacun est appelé à se recevoir. Face au sentiment d'absurdité, nous découvrons que le monde n'est pas qu'un chaos, mais qu'il est cosmos, créé par Dieu avec un certain ordre qui n'est pas terminé. Cet ordre du monde est en devenir et l'homme est partenaire de cette évolution de ce monde qui lui est confié. Cet ordre, les bouddhistes le relieront à l'idée de dharma, qui est aussi l'expression pour l'enseignement du Bouddha. Pour la tradition chrétienne, on renvoie à la parole qui donne forme et être au moment de la création, et aussi le fait que chacun de nous est appelé par son nom. Le jour de notre naissance, une parole nous a été dite et que nous ne devrions jamais oublier. « Tu es mon enfant bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. » La vie n'est pas absurdité. Et il y a de l'espace pour chacun dans ce monde. Mais ce monde est très souvent injuste et prendre ma place dans ce monde, c'est pas simplement en tant que destinataire des biens du monde, mais aussi en tant qu'acteur d'un ordre respectueux du plus fragile dans le monde. On juge une civilisation à la façon dont elle traite les plus fragiles. Et on juge d'un ordre du monde ou d'une civilisation à la façon dont les plus petits sont traités. Et ce qui nous est dit dans une approche chrétienne, quand nous sommes appelés par notre nom, et souvenez-vous, je vous ai parlé de ce nom qui est inscrit sur une pierre blanche dont nous parle l'Apocalypse et que nous sommes les seuls à connaître et que nous avons à découvrir. Cela nous dit que personne n'est né par hasard. Effectivement, dans l'Apocalypse, il est dit « Au vainqueur, je donnerai une pierre blanche et gravé sur la pierre un nom nouveau que personne ne connaît, sinon qui le reçoit ?» Un nom nouveau que personne ne connaît, sinon qui le reçoit ? Nous sommes invités à partir à la découverte de notre nom unique. C'est l'Apocalypse au chapitre 2, verset 17. Je suis unique et irremplaçable. Je ne suis pas jeté dans le monde, comme on le disait dans le cadre d'un certain existentialisme athée. Je ne suis pas simplement une passion inutile, comme l'a écrit à un certain moment Jean-Paul Sartre. Je suis un être unique et irremplaçable. Le monde est pour moi, je suis pour le monde. Le monde est pour Dieu. Enfin, à propos de la solitude, nous découvrons que par la méditation, nous sommes profondément reliés à d'autres personnes, à notre entourage, au cosmos. Pour certains, seule l'appartenance à une communauté vivante peut représenter la bonne réponse. C'est le souffle de Dieu qui réalise l'harmonie en nous et dans l'univers. C'est l'énergie vivifiante de l'esprit qui réalise l'unité de l'être du monde. Donc, nous pouvons dépasser la détresse par la pratique de la méditation. Et je vous rappelle que le genre de pratique de méditation sur le plan de la posture que je vous propose se fait selon un certain nombre d'étapes que je vous ai déjà dites et que je vous rappelle parce que ça peut aider l'un ou l'autre qui aimerait bien essayer de voir comment mettre en pratique cela dans une vie quotidienne avec un petit espace libéré pour cela. Et je vous proposais un certain nombre d'expressions qui peuvent vous aider à vous unifier dans ce travail sur le souffle, lorsque vous êtes en respiration profonde, dans une détente, vous ouvrant à la grâce, vous ouvrant à celui qui vous habite et vous appelle par votre nom. Ces expressions sont « je me lâche »,« je me donne », »,« je m'abandonne », ça c'est pendant l'expiration, et « je me reçois » au moment de l'inspiration. Certains préfèrent employer l'expression « se lâcher, se donner, s'abandonner, renaître ». Pour certains d'ailleurs qui n'ont pas l'habitude d'une respiration très ample, c'est trop long de dire « je me lâche, je me donne, je m'abandonne » parce qu'ils n'ont pas le temps de dire tout cela simplement sur l'expiration. Normalement, il y a un temps de 1 à 3 entre l'expiration et l'inspiration. Mais peu importe, vous prenez simplement une expression. Mais je voudrais vous donner ici la signification symbolique de ces termes dans la démarche par rapport aux trois détresses. Lorsque je dis « je me lâche », là je dépasse l'angoisse de la mort. J'ose me lâcher. Quand je dis « je me donne », puis « je m'abandonne », je dépasse ce sentiment d'une absurdité. Je communie avec un certain ordre du monde, de la création. Je suis là présent avec ce que j'ai d'unique. Et quand je vais jusqu'au bout du « je m'abandonne », il y a un dépassement de la solitude où j'accepte de me recevoir d'un autre, où j'accepte d'être avec d'autres, où j'accueille ce monde tel qu'il est. Je sors de l'enfermement. Et la libération de la source vient quand j'en suis à « je me reçois ». Je me lâche, je me donne, je m'abandonne. Je suis dans ce grand mouvement de la respiration où le souffle me quitte. Et puis je me reçois, c'est le souffle qui me traverse et qui me revient et qui me libère de l'angoisse, de l'absurdité de l'isolement. Je renais à une vie nouvelle parce que je suis retourné dans mes profondeurs. Et cela, c'est un véritable chemin de transfiguration. Ça peut être vécu comme ce que Graf Durkheim appellera la roue de la métamorphose. Métamorphose, c'est la traduction grecque en fait du mot transfiguration. Et pour un chrétien, ce travail n'est pas simplement le résultat d'un exercice physique de respiration. C'est le résultat de l'action de l'Esprit de Dieu, puisque dans l'inspiration, quand je reçois la profondeur de ce souffle qui me traverse, je sais que c'est ainsi que Dieu a créé l'homme, et je me reçois de mon Dieu, et je me laisse aimer par lui. Donc cet acte de méditation, cet acte d'intériorisation me permet de me libérer de cette peur de la mort, de ce sentiment de l'absurde et d'exister vraiment de tout mon être et de sortir de l'isolement. Alors bien sûr, c'est possible quand je dépose mes valises de mes regrets par rapport à hier et mes peurs pour demain et je suis bien présent dans l'instant de ce souffle, présent à une présence qui est la présence de celui qui m'aime et qui m'appelle par mon nom. C'est pourquoi cette respiration vécue dans ce mouvement trinitaire d'un Dieu qui me donne la force, du Fils qui m'appelle par mon nom, de l'Esprit qui m'unifie, eh bien devient vraiment une prière chrétienne. Et ça va bien au-delà d'une technique. C'est un chemin spirituel. On peut se demander si ce n'est pas un petit peu utopique d'imaginer cette unification de l'être profond. Et il y en a certains qui vont se dire « mais on va arriver alors à un état de plénitude parfaite ». Donc, selon la façon dont on va se positionner dans une proposition comme celle-ci, on peut soit rêver d'harmonie impossible, soit carrément dire « tout ça est impossible ». Je crois que ce qui est important, c'est de voir que on a tous, d'une certaine façon, le rêve de retrouver une certaine harmonie, unité primordiale que nous avons peut-être connu d'une certaine façon dans l'époque de notre vie intra-utérine. Et le risque, c'est de fuir dans une vision complètement idéalisée d'un équilibre, d'une guérison, d'une harmonie, où on mettrait complètement entre parenthèses cette réalité de la fragilité, de la maladie, de la vieillesse, de la mort, qui fait partie de notre quotidien, que nous avons apprivoisé, même si nous pratiquons un chemin de méditation, un chemin spirituel. Je crois donc que c'est important de bien se rendre compte qu'il ne s'agit pas ici de fuir la réalité, ni de rêver d'impossible harmonie totale et parfaite, encore une fois, ni performance, ni perfection, mais un chemin de quête d'un sens. On pourrait se poser la question, parce que c'est une grande nostalgie, l'homme a-t-il un jour connu l'immortalité et la béatitude ? Et si c'est le cas, comment les a-t-il perdus ? Et que doit-il faire pour les retrouver ? Cette fameuse division dont je parlais à propos des trois détresses, disant que ces détresses sont la manifestation d'une perte, d'une certaine unité intérieure, a-t-elle jamais existé ? Ces questions sont réelles et se retrouvent dans toutes les cultures et toutes les religions et les grandes mythologies. On pourrait imaginer que le travail que je propose sur un chemin de méditation serait de revenir à un ordre primordial paradisiaque, restauré par notre effort humain, ou par une intervention divine, ou par la collaboration entre les deux, cette espèce d'état primordial. Eh bien non. Il ne s'agit pas de revenir à un état de perfection, ni d'essayer d'être des êtres supérieurs qui seraient capables d'avoir développer des potentialités qui leur donneraient une supériorité sur les autres. Parce que vous savez que c'est aussi une grande tentation de notre temps. Il y a pas mal de gens qui font un travail sur eux-mêmes avec l'espoir de faire partie de cette petite élite qui un jour dominera la Terre. Et nous pourrions ici citer un certain nombre de nouveaux mouvements religieux à tendance sectaire qui proposent ce rêve-là. Eh bien, c'est pas du tout dans cette dynamique-là que nous nous situons. Il s'agit de prendre conscience de qui nous sommes avec toutes nos dimensions et donc avec nos limites humaines, afin d'accueillir le plus pleinement possible la vie qui nous est donnée. Et parler ainsi d'une vie qui nous est donnée, c'est déjà reconnaître que la vie ne vient pas de nous, et qu'il existe une vocation humaine commune et essentielle que nous sommes invités à découvrir et à réaliser. Comme chacun de nous est unique, c'est de façon singulière que nous pouvons correspondre à cette vocation humaine. Mais comme il existe un grand nombre de cultures et de religions, nombreuses sont les conceptions du salut et les chemins pour y parvenir. Alors voyons ce qui nous est dit à propos de l'origine humaine dans certaines traditions, en partant à l'écoute de mythes ou de textes bibliques. L'histoire des religions montre que de nombreuses traditions expliquent les limites de l'être humain comme la conséquence d'une rupture avec Dieu, qui a provoqué la perte de la béatitude paradisiaque. Cette rupture est le résultat d'une transgression, ce qui expliquerait le sentiment de culpabilité qui pousse l'homme à se concilier aujourd'hui la bienveillance de Dieu et qui entretient en lui la nostalgie d'un paradis perdu. Eh bien oui, il y aurait eu un jour, un temps, où c'était autrement. Alors qu'il soit de tradition chrétienne ou non, la plupart des Occidentaux connaissent le mythe d'Adam, qui provient de la Genèse. Dans ce fameux récit, qui n'est pas un événement historique, qui est une construction théologique en fait, nous voyons Dieu qui, après avoir créé l'homme et la femme, leur a confié la responsabilité du monde, en leur donnant toute la création, mais en leur demandant simplement de ne pas toucher à un arbre, qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et là, un personnage maléfique, représenté par un serpent, leur propose de transgresser cet interdit, d'abord en les trompant quant au terme de cette interdiction de Dieu, puisqu'il pose la question à la femme, « Est-il vrai que vous n'avez pas le droit de manger des fruits des arbres ?» Or, ce n'est pas ça qui était dit. Et puis, en plus, en montrant un enjeu dont il n'était pas question au départ, en leur disant que s'ils touchaient à ces fruits, eh bien, ils deviendraient comme Dieu. Et, d'après ce mythe, c'est à ce moment-là qu'il y a eu une rupture avec Dieu, parce que eh bien, les premiers humains auraient voulu prendre ce pouvoir divin. Et dans cette approche-là, on voit bien que l'homme imaginait un Dieu tout-puissant à la manière des religions païennes. Et ce récit biblique vise à expliquer que ce que nous vivons comme division intérieure qui engendre justement ces trois détresses aujourd'hui serait dû à une rupture avec Dieu que l'on situe à l'origine dans le récit, mais qui est bien aussi la réalité que nous rencontrons aujourd'hui chacun d'entre nous parce que nous sommes des êtres créés avec une liberté. Alors je ne vais pas venir sur le débat théologique et historique concernant cette origine du mal. Il y a eu beaucoup de débats parmi les théologiens sur la transmission de ce péché dit originel. En réalité, puisqu'il y a différents événements historiques et différentes interprétations à travers l'histoire de cette transmission biologique des conséquences de la transgression, on a beaucoup de mal à en rendre compte aujourd'hui dans notre conscience contemporaine. Nous n'acceptons pas l'idée d'être culpabilisés pour un mal que nous n'aurions pas posé. C'est pourquoi on essaie de voir dans quelle mesure, par exemple, dans l'acte même de la conception, le péché originel aurait été transmis. Je crois que ce n'est pas dans ce lieu-là, qu'il faut nous situer ici dans notre chemin spirituel. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a du mal dans le monde, que ce mal, nous l'avons trouvé à notre naissance, et que, assez rapidement, alors que tout au début nous en avons été victimes, ne fût-ce que dans les propres limites de nos parents et de notre entourage, assez vite, comme être de liberté, nous en devenons complices. Et donc ici, le mythe nous informe sur une réalité qui est très profonde d'un point de vue anthropologique, c'est la finitude de l'homme. L'homme n'est pas à son origine, et quand l'homme veut se prendre pour Dieu, il perd tout. Et puis il y a un enseignement théologique qui veut expliquer pourquoi et comment se passent aujourd'hui les relations entre l'homme et Dieu depuis cette chute. Et cette représentation est profondément archaïque. Et ce n'est pas seulement dans le judéo-christianisme ou dans l'islam que l'on rencontre ce genre de mythe. Je l'ai personnellement rencontré dans de nombreuses autres traditions anciennes. J'ai rencontré des mythes africains, dont j'ai déjà parlé d'ailleurs dans des émissions antérieures, mais auxquelles je fais allusion simplement maintenant, qui racontent comment l'homme et la femme vivaient dans une proximité avec Dieu, ne connaissaient pas la mort, ne connaissaient pas la maladie et ne connaissaient pas la guerre. Et c'est à partir du moment où l'homme n'a plus voulu se recevoir de Dieu, c'est-à-dire obtenir de lui la nourriture, la force, la lumière, c'est à partir du moment où il a voulu mettre la main sur Dieu qu'il s'en est coupé et qu'il a perdu la félicité primordiale. Il y a eu rupture, éloignement de Dieu, solitude de l'homme, apparition de la maladie et de la mort. Quand l'homme veut prendre la place de Dieu, la violence et la mort entrent dans le monde. Ce récit rend compte d'un sentiment très profond, donc, dont j'ai parlé, inscrit dans la mémoire de l'humanité, qui se décline de bien des façons à travers son histoire, la nostalgie d'un grand idéal, d'un grand monde paisible, que l'on retrouve d'ailleurs également en psychanalyse. Nous ne rencontrons pas les mêmes récits dans l'hindouisme ou dans le bouddhisme, mais ces deux traditions parlent aussi de la division qui se situe dans l'être humain, de cette perte d'harmonie. Ces deux traditions enseignent que si l'être humain ne parcourt pas un chemin d'intériorité, s'il ne cherche pas à dépasser ses passions en vue d'une libération intérieure, eh bien il est soumis, esclave, de forces qui le tirent vers le bas, qui le divise intérieurement et qui lui rendent impossible l'accès à la réalisation plénière. Vous connaissez sans doute cette expression d'être réalisé que l'on retrouve dans certaines traditions justement de l'Orient. De même que chez les bouddhistes, on parlera des êtres sensibles. Alors dans ces traditions, eh bien la conséquence d'une non-libération d'une non-prise de distance par rapport à tout ce qui avive les passions et qui donne envie de mettre la main pour posséder le monde et ce qui nous entoure ou les autres, eh bien la conséquence, c'est le cycle des renaissances, ce qu'on appelle le samsara, dont la répétition ne peut être interrompue qu'à la suite d'un long chemin de libération qui est conditionné par la justesse de l'attitude de l'homme face à lui-même, face aux autres, face au monde. Dans le bouddhisme, il est dit à propos de l'origine de la souffrance que ce qui empêche l'harmonie et la félicité pour l'homme, c'est une insatisfaction par rapport au présent. C'est un désir qui continuellement le taraude d'acquérir ce qu'il n'a pas ou le fait pleurer sur ce qu'il a perdu, c'est-à-dire une conséquence de son incapacité à vivre l'attitude juste qui consiste dans le fait de reconnaître que ce que nous voyons n'est qu'apparence, que ce qui donne l'impression de durer n'est qu'en fait impermanence, c'est-à-dire infiniment fugace. Et dans ces deux traditions, le résultat est le même, l'homme n'est pas capable d'avoir une attitude juste face à la réalité qui l'entoure, ni de vivre dans la sérénité à cause de cette illusion dont il doit se libérer, illusion de connaissance. C'est pourquoi il y a ces chemins de libération qui sont proposés dans les traditions orientales, qui ne se font pas avec l'aide de la grâce comme dans une tradition chrétienne, mais où l'homme est appelé à parcourir un chemin de sagesse et d'unification.
Vous venez d'entendre « Marcher en creusant » avec le père Bernard Hugeux, missionnaire d'Afrique, anthropologue, théologien et auteur.